France Bleu Paris. Circuit bleu, côté expert, Ségolène Aluni.
Et c'est un expert de l'histoire de nos régions qui vient de nous rejoindre, Alain Dirocco, auteur du livre « Les origines méconnues de nos régions » paru aux éditions Beaurepaire, qui retrace l'histoire de quatre régions françaises, la Normandie, la Champagne, la Lorraine et l'Île-de-France. Et c'est évidemment ici que l'on va s'attarder. Bonjour Alain Dirocco.
Oui, bonjour Ségolène.
Alors vous avez fait un vrai travail de fond pour savoir à quoi ressemblait notre région et comment son paysage a changé depuis l'Antiquité à nos jours. Combien de temps vous avez mis pour faire ce travail de recherche?
À peu près un an et demi.
Un an et demi?
Oui, un bon... Voilà.
Plonger dans les archives. Parce que vous avez un profil et un parcours un peu particulier, Alain. Vous n'êtes pas historien de formation, ni de profession d'ailleurs. Vous faites ça par passion?
Oui, tout à fait. Ça m'est venu bien après mes 20 ans. Et en fait, c'est à travers les voyages, la géographie, que je me suis intéressé après à l'histoire.
Et vous êtes d'ailleurs originaire de la plus ancienne commune d'Île-de-France. C'est la doyenne des cités franciliennes. Et non, les amis, ce n'est pas Paris. Il s'agit de Chelles, direction donc la Seine-et-Marne. 9h36, bienvenue sur France Bleu Paris. Le temps passe, comme dirait Emma Peters. Transition toute trouvée pour mon invité ce matin, Alain Dirocco, passionné d'histoire et de l'histoire de nos régions, mais sans la casquette de l'historien universitaire un peu poussiéreux. Vous vous comparez volontiers un peu à Laurent Deutsch,
sauf que
votre parti, c'est pas le métronome.
Non, mais bon, en fait, c'est l'histoire des régions et puis l'histoire des villes, donc Chelles, effectivement. Chelles, qui est l'une des plus anciennes villes, en fait, de franciliennes, de l'Île-de-France. Elle remonte au néolithique, hein, sa première implantation permanente au néolithique, exactement où se trouve la mairie de Chelles aujourd'hui en fait.
D'accord, c'est là
époques,
où on a trouvé les premières traces.
Tout à fait, d'implantation de cabanes en permanente, un village donc néolithique qui remonte à peu près à 5000 ans. Donc par rapport à nos jours, ça fait beaucoup de siècles passé au néolithique, et ensuite il y a eu bien sûr la période celtique.
Ouais, la période celtique, donc avant la période romaine où la cité s'est
tout à fait
beaucoup
en transition
aussi.
Voilà, donc 2e-3e siècle avant Jésus-Christ la période celtique, et là alors à la période romaine, la ville s'est développée énormément à l'ouest. La grande artère de l'avenue de Résistance montre encore effectivement cet alignement romain, et ensuite la période de prestige de Chelles, la grande période, c'est la période mérovingienne avec le roi Clovis qui siégeait à Paris, effectivement, mais qui avait son palais de villégiature à Chelles.
Est-ce que ça s'appelait déjà Chelles à l'époque?
Alors, ça a porté le nom de Cala, de Chala, par rapport au mont de Chala, qui était le mont de Chelles, en fait. Et c'est passé par Cala, Calensis, par beaucoup de noms, 10 à 12 noms, répertoire, et c'est devenu Chelles bien après le Moyen-Âge.
Il y a une signification derrière ce mot?
Alors le mot Chala, on ne sait pas la signification, mais c'est le nom effectivement de la colline qui domine Chelles, qui a donné son nom à la ville de Chelles en fait.
Donc,
Mont Chala.
L'époque mérovingienne marque l'apogée de Chelles.
Tout à fait.
Pour quelle raison? À cause de Clovis qui...
Par rapport à Clovis qui en fait avait fait déplacer ses instances de la conciergerie à Chelles, également le trésor royal. Et beaucoup de contemporains à l'époque pensaient que Chelles était tout aussi capitale que Paris.
Oui, c'est ça, elles avaient la même envergure.
Tout à fait, la même envergure et la même importance politique.
Paris qui, à l'époque, ne s'appelait pas Paris.
Non, alors Paris s'appelait Lutèce jusqu'au 3e siècle, à peu près.
Et gros plan, justement, sur Paris dans quelques instants, qui, avant son emplacement actuel, où nous sommes, était situé ailleurs, figurez-vous. Et oui, notre capitale n'a pas toujours été au même endroit, ça c'est assez incroyable. On va vous révéler son emplacement originel.
France Bleu Paris, circuit bleu, côté expert.
Comment est né Paris? Notre capitale, sachez-le, n'a pas toujours siégé au même endroit. Et non, c'est ce qu'on découvre dans l'ouvrage passionnant de notre invité, Alain Dirocco. Dans votre livre, Les origines méconnues de nos régions, vous nous rappelez que Paris, telle que nous la connaissons, est née de l'île de la Cité, là où siège Notre-Dame, entre autres. Mais c'était une solution de repli, car auparavant, la ville qu'on appelait d'ailleurs Lutèce avait un tout autre emplacement.
Oui, tout à fait. Alors en fait, il faut savoir que la Lutèce d'avant la période romaine existait dans le port de Gennevilliers, donc à l'ouest de Nanterre. Et c'est à la suite de la bataille de Lutèce qui a eu lieu sur le Champ de Mars avec le lieutenant de César, Labiénus, que les rescapés ont eu l'autorisation de s'installer à l'embouchure de la Bièvre et ensuite dans l'île de la Cité.
D'accord, donc Lutèce était au niveau de Nanterre,
voilà, tout à fait.
À l'ouest de Nanterre, et ensuite les rescapés vont sur l'île de la Cité qui ressemblait à quoi à l'époque ?
Alors on appelait l'île de la Cité l'île de la Dame Blanche, qui était une île avec à peu près 7 mètres de dénivellation par rapport à aujourd'hui. Et vous en avez encore le témoignage dans la rue Chanoinesse, qui est presque au niveau de la Seine de l'Antiquité. Donc cette Lutèce-là est née à peu près 2 décennies avant Jésus-Christ, c'est-à-dire sous Auguste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais retrouvé de piliers en bois, que des constructions en pierre, car elle date, elle est d'époque gallo-romaine. Au contraire, à Lutèce Nanterre, là, on a retrouvé des signes de piliers qui datent du 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ, et c'est en 2003 qu'on a trouvé effectivement la production monétaire du peuple parisiste, donc qui prouvait que cette ville était la capitale, l'ancienne Lutèce, donc dans le port de Gennevilliers à Nanterre, qui date du 3 ou 4e siècle avant Jésus-Christ.
Et la ville de Nanterre en elle-même, elle est née à ce moment-là après ?
Non, Nanterre, en fait, cette ville des parisistes, dont les parisistes et leur chef Camulogène a mis le feu avant de se rendre en bataille, en rang de bataille sur le champ de Mars face aux Romains, et le Nanterre de Sainte Geneviève est née après, plus à l'est en fait, de l'ancienne ville celte.
D'accord.
Donc c'est deux villes différentes en fait.
Et alors pour revenir à Paris, donc berceau l'île de la Cité, et ensuite expansion urbaine, rive gauche, hein,
oui,
ça commence
tout à fait. Et c'est là que, que Paris va atteindre à peu près 53 hectares avec ce qu'on appellera le quartier latin, de ce nom justement, de l'ancienne ville romaine. Et son centre sera à peu près à l'angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques, donc où se croisaient le Cardo et le Decumanus. Le forum est à peu près sous la rue Cujas et la rue de la Sorbonne, l'ancien forum.
Et alors, on va reparler de Clovis, qui a beaucoup fait justement dans le découpage de nos villes. C'est lorsqu'il s'empare de Paris qu'il en fait une ville beaucoup plus importante, la capitale du Royaume des Francs.
Oui, voilà, première capitale du Royaume de France. Il s'installe dans le palais de Julien, le palais de l'empereur romain du 3e siècle. Et c'est là que, en fait, Clovis va vraiment commencer à étendre un peu Paris, à prendre ses fonctions. Mais malheureusement, comme si je peux dire ainsi, le soufflet va vite retomber car ses 4 fils vont avoir des territoires annexes et Paris sera juste une capitale régionale. Celle d'un de ses fils, un autre à Soissons, un autre à Orléans et un autre à Reims. Donc Paris sera plus la capitale du Royaume franc. Il va falloir attendre jusqu'en l'an 1000 sous Hugues Capet en 987 pour que là, Paris retrouve un rôle royal, et c'est vraiment sous Philippe Auguste, bien plus tard, donc au XIIe, XIIIe siècle, que Paris va prendre une dimension vraiment nationale, avec une ville qui va atteindre au XIIIe siècle à peu près 200 000 habitants, c'est-à-dire la plus grande ville d'Europe. Sous Philippe Auguste, grâce à cette muraille qui, justement, protégeait Paris face aux invasions peut-être anglaises.
Ah oui, c'est pas pour rien qu'on parle de Paris intramuros, c'est parce qu'il y avait aussi une haute muraille qui délimitait le territoire parisien. Autre ville d'envergure à ses origines, on va retourner en Seine-et-Marne, c'est la ville de Meaux, considérée aussi comme l'une des plus anciennes avec Chelles. Retour en Seine-et-Marne. Et ce matin, c'est un passionné d'histoire qui nous donne un aperçu de son ouvrage passionnant sur la genèse de nos villes franciliennes. Direction tout de suite la Seine-et-Marne, depuis l'une des plus anciennes villes de la région. Alain Dirocco, aussi surprenant que ça puisse paraître, la ville de Meaux aurait été fondée par des Belges.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
En fait, tout simplement, quand on dit Belgique aujourd'hui, on pense au pays Belgique, mais Belge, dans le monde celte, c'était tous les Celtes qui étaient au nord de la Marne. Et Meaux est pile au nord de la Marne. Il y a une partie aujourd'hui qui est au sud de la Marne, mais à l'époque, elle était au nord de la Marne, comme Reims, les Rèmes. Et Meaux vient du mot Meld, donc le peuple belge Meld, qui était au nord de la Marne et qui a créé Meaux. On pense qu'elle était fondée au 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'était une ville assez importante qui, son peuple allait jusqu'au milieu de la Seine-et-Marne. Au sud, elle se partageait avec les Sénons de Melun, la Seine-et-Marne actuelle, tout ce territoire. Et Meaux a eu une destinée particulière puisqu'elle a été alliée des troupes de César. Et les Mèles ont fourni du blé aux légions de César. Et à la fin de la guerre, quand les Romains ont remporté la victoire, Meaux a eu effectivement la bienveillance de Rome. Et elle s'est vue attribuer des monuments, des axes, une superficie qui arrivait à 60 hectares, donc 7 hectares de plus que Paris.
Ah oui.
Une ville très importante qui allait au Brasset nord de Meaux, c'est-à-dire à plus d'un kilomètre au nord de la cathédrale d'aujourd'hui. Et une petite anecdote au passage.
Ouais.
Alors, il faut savoir que pendant la guerre des Gaules, on soupçonne fortement que toute la flotte qui a envahi la Bretagne de César, cette flotte aurait été construite près de l'actuel hôpital de Meaux, au Brasset, le méandre nord de la Marne qui passait près de l'hôpital.
C'est là que César aurait fait construire ses navires de guerre.
Voilà, pour envahir l'île de Bretagne.
L'île de Bretagne, c'est quoi? C'est l'Angleterre, du coup?
C'est l'Angleterre actuelle, tout à fait. Voilà. Alors, cette ville romaine ne portait pas encore le nom de Meaux, mais s'appelait Yantinum. Yantinum, ça n'a pas de signification. Enfin, on n'a pas retrouvé la signification précise. Mais par la suite, pendant les invasions germaniques, comme toutes les villes quasiment de France, elles ont retrouvé leur nom avec la base de leur peuple. Et en l'occurrence, Civitas Meldunum, donc la cité des Meldes.
D'accord. Hein,
comme Meld. Civitas Parisis pour la cité des Parisiens.
Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, Meldes, Meaux actuellement, reste la commune la plus peuplée de la Seine-et-Marne.
Oui, tout à fait. Ben, elle se dispute justement, ce qui est anecdotique, avec Chelles, ouais. À peu près 50 000 habitants. Et, alors les Meldes signifiaient en celte les bons, les calmes.
Ah, d'accord. Oui, il y avait une signification derrière.
Voilà, bon. Les bons, les calmes.
Eh ben voilà, les habitants de Meaux peut-être pourront se reconnaître à travers cette signification de leurs ancêtres. Et pour prolonger l'aventure, rendez-vous en librairie. Procurez-vous l'ouvrage d'Alain Di Rocco, Les origines méconnues de nos régions. C'est passionnant. C'est paru aux éditions Beaurepaire. Et c'est fait avec passion, Alain, puisque je rappelle que
oui, tout à
vous
fait.
N'êtes pas historien, mais vous en parlez tout comme si
voilà,
vous l'étiez.
Un passionné je me dérange dans ces régions et j'ai envie de montrer, de comparer ce qu'ont été ces villes par rapport à Paris. Aujourd'hui, tout est centralisé. Paris est une très belle ville, mais d'autres villes ont été très importantes par le passé et le sont encore.
Et c'est ce que vous nous avez convaincu en tout cas ce matin sur cette théorie.
Merci
beaucoup Alain Di Rocco d'avoir été en direct avec nous.